6h01, lundi 1er juin. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. D'abord, un petit rappel des prévisions météo pour aujourd'hui. Actuellement, partiellement nuageux. On a 3 degrés, c'est pas chaud. Vous avez vu qu'en fin de semaine, il y a même eu, après la période de canicule du milieu de la semaine, là, on a eu des températures très froides, même des avertissements de gel qui sont terminés, Mont-Tremblant, Mont-Laurier. Quelques endroits, il y a des flocons de neige aussi qui sont tombés. Alors, c'est un contraste plus que radical. Donc, pour ce matin, c'est du soleil. Il y aura plus de nuages au cours de l'après-midi. 40 % de probabilité d'averse également. Les vents sont légers. Et le maximum pour aujourd'hui, 17 degrés. En soirée, ça demeure couvert. Encore là, faible risque de pluie. Les vents légers, minimum de 10 durant la nuit. Et pour demain, c'est de toute façon là, très nuageux, 22 degrés. Et la pluie devrait commencer en fin de journée demain et se poursuivre pour une bonne partie de la journée de mercredi. Revenons tout de suite sur les manifestations. Marie-Laurence vient de vous donner un peu le portrait de Montréal. Je vais revenir dans deux instants, mais on en est à la 6e journée. Richard Châteauvert est à New York. Et c'est toujours un peu le même scénario. On l'a vu ici, Richard. Les manifs commencent de façon très pacifique, de façon générale, là. Mais dès que le soleil se couche, ben, ça dégénère.
Oui, ça commence vers au milieu de l'après-midi, c'est très, très pacifique, les gens se promènent un peu partout et ça dégénère. On a vu à la télévision, Paul, des scènes de pillage dans de nombreuses villes, dont Santa Monica, en banlieue de Los Angeles, Philadelphie et ici à New York. Dans l'ensemble, au moins 26 États ont déployé la garde nationale et 40 villes ont imposé des couvre-feux, mais les couvre-feux n'ont pas été respectés. À Minneapolis, où tout a débuté lundi soir dernier avec la mort de George Floyd, 150 manifestants ont été arrêtés cette nuit après le début du coup de feu. Donc ici à New York, il y a eu plusieurs manifestations samedi, plusieurs manifestations hier. On estime qu'il y avait toujours au moins 6000 manifestants qui marchaient dans toutes les directions, dans plusieurs parties de la ville, dont devant le Barclays Center à Brooklyn, Union Square principalement. Et cette nuit, ça s'est terminé de façon très violente dans le quartier de Soho, où toutes les boutiques de luxe qui sont fermées et dont les façades sont recouvertes pour la plupart de planches de bois depuis 2 mois, elles ont été attaquées. Des pillards ont tout volé chez Bloomingdale's, Chanel, Diesel, d'autres marques. C'est à côté de chez moi, j'ai entendu des sirènes toute la nuit, des hélicoptères. Quel est l'apport des agitateurs? On sait que le président Trump et son procureur général William Barr, qui a tenu une conférence de presse samedi, affirmant que ces manifestations étaient noyautées par des groupes d'extrême gauche, dont Antifa, le fameux groupe antifasciste. Ici à New York, John Miller, le commissaire adjoint du renseignement et du terrorisme, a déclaré « Des groupes bien organisés d'agitateurs ont infiltré les manifestations à New York, transportant de l'essence, des pierres et des bouteilles de verre, ciblant des lieux pour le vandalisme, et ils utilisent des applications cryptées. » Donc, ce sont des groupes très bien organisés. Est-ce que c'est Antifa? Il a évoqué un certain nombre de groupes anarchistes. Donc, M. Trump a été terré à la Maison-Blanche tout le week-end, sauf pour un voyage rapide en Floride pour le tir de la capsule SpaceX. Il a lancé tout le week-end des tweets hostiles aux manifestants. Son entourage s'est demandé si le président devait faire une adresse à la nation. On a décidé pour le moment que ce n'était pas utile parce que M. Trump apparemment n'aurait rien à dire. On a vu quand même, Paul, des scènes qui donnent de l'espoir. Vous avez remarqué, tous les auditeurs ont dû remarquer que dans toutes les villes, c'était pas seulement des Noirs qui manifestaient. Il y avait beaucoup, beaucoup de Blancs, beaucoup de jeunes Noirs, des Asiatiques. On sent que la jeunesse dans ce pays veut finalement crever l'abcès du racisme qui secoue ce pays. On a vu aussi de belles scènes dans plusieurs villes. On a vu des policiers poser un genou par terre comme Colin Kaepernick par solidarité avec les manifestants.
Mais j'ai vu les images de ce shérif au Michigan, si mon souvenir est bon, là, qui a dit « Qu'est-ce que vous voulez de nous? Puis venez marcher avec nous. » Il a décidé d'y aller.
C'est le shérif du comté de Genesee, Chris Swanson. Il dit « Regardez, j'ai enlevé mon casque, je vais marcher avec vous. » Ce sont vraiment de belles scènes, Paul, qu'on a vues quand même. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pillage, des vitrines fracassées, à Santa Monica, dans une boutique REI, il y a des gens qui sortaient avec des bicyclettes de 4 000 $. Le magasin était vide. Il va falloir voir. Évidemment, il va y avoir des enquêtes, mais encore une fois, John Miller, qui a beaucoup d'expérience ici à New York, qui dit que ce sont des groupes bien organisés d'agitateurs qui utilisent des applications cryptées. Parce que ils utilisaient aussi une des techniques ici à New York, c'est qu'ils utilisaient des bicyclettes. Ils se promenaient, ils réussissaient à semer les policiers. Et dès qu'ils voyaient une poubelle, ils mettaient le feu à la poubelle. Dès qu'ils voyaient un tas d'ordures, ils mettaient des boîtes de carton, ils mettaient le feu. Donc, on a vu des petits feux partout, de nombreuses voitures incendiées, des voitures de police. On n'a pas les dernières statistiques, mais dans la nuit de samedi à dimanche, il y a eu 47 véhicules de police ici à New York endommagés ou détruits, 33 policiers blessés. Je vais avoir les statistiques sans doute lors de ma prochaine intervention, mais avant cette nuit, il y avait eu 600 arrestations à New York et il y en a eu un grand nombre. On a vu des scènes, encore une fois, de pillage qui n'avaient rien à voir avec la mort de George Floyd, mais dans tout ça, il y a de l'espoir. La jeunesse américaine veut créer cet abcès. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va se poursuivre ce soir? Voilà la question.
Et parmi les arrestations, j'ai vu tantôt que la fille du maire de Blasio a été arrêtée.
La fille du maire de Blasio, Kiara de Blasio. Il faut dire que le maire de Blasio est blanc, son épouse est noire, donc ses enfants sont métis. Kiara de Blasio, je pense qu'elle a 26 ans. Elle a été arrêtée samedi soir dans le quartier de Greenwich Village. On n'a pas encore la réaction du maire.
Et qu'est-ce qui s'est passé à Washington hier? Ça a été plus violent qu'à l'habitude. On dit même qu'on a éteint l'éclairage extérieur de la Maison-Blanche pendant que les manifestants mettaient le feu à des véhicules.
Ils mettaient le feu à des véhicules. Ils ont fait un grand feu de camp qu'ils alimentaient sans arrêt. Ça se passait sous les yeux du président Trump. Le président Trump, qui est en faveur de la loi et de l'ordre, qui devait voir ce qui se passait. D'ailleurs, vendredi soir, la Associated Press affirme que vendredi soir, le président Trump a été transporté dans un lieu souterrain sous la Maison-Blanche pour le protéger. Je pense qu'il a nié cette information. On va avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui s'est passé au cours du week-end dans l'heure ou les 2 heures qui vont venir et j'aurai plus d'informations lors de ma prochaine intervention pendant le bulletin de 7h40. Mais ça a été, Paul, ce sont des événements dont on va parler. C'est comme Rodney King en 1992. Alors, on va en parler pendant des années. Sur quoi ça va déboucher? Il va falloir voir. Le gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo, a donné une piste de solution. Pour lui, il faut adopter sur le plan national une définition de ce que c'est que la force excessive utilisée par un policier. Parce qu'actuellement, il y a 12 000 États et villes qui ont des services de police et qui déterminent eux-mêmes qu'est-ce que c'est la force excessive. Il faut absolument que ces manifestations donnent lieu à des réformes pour calmer l'Amérique parce qu'on on a deux pandémies. On a la pandémie biologique, on a cette pandémie du racisme qui est, comme vous le savez, le péché originel de ce pays.
Et tout ça à 5 mois des prochaines élections présidentielles. Merci Richard, on se reparle tantôt. Peut-être ajouter quelques éléments là, en faisant la revue de presse ce matin. D'abord, vous avez vu les images, tout le monde a vu les images qui ont fait le tour de la planète. Il y a le New York Times qui a décortiqué ces images-là pour essayer de comprendre comment on en est arrivé à arrêter et accuser le policier Derek Chauvin. Ça dure 8 minutes 46. Et ce qui est encore plus troublant, puis à chaque fois qu'on regarde ces images-là, on a tous un sentiment de stupéfaction, de malaise. Pendant 2 minutes 53, le genou du policier Chauvin demeure appuyé, là, il fait une pression sur le cou de la victime Floyd, alors qu'il ne bouge pas. Parce qu'au début, vous l'avez entendu dire « je respire pas, aidez-moi, faites quelque chose, quelqu'un ». Mais il tombe soudainement inconscient et on comprend qu'il est pratiquement décédé. Et ça a duré 2 minutes 53 jusqu'à l'arrivée des paramédics. Je veux dire également 2-3 précisions. D'abord, sur les circonstances de l'arrestation. Ce qu'on comprend, c'est que le point de départ, c'est l'utilisation d'un faux billet de banque pour faire un achat dans une espèce de petit supermarché, qu'on a appelé la police pour ça, que M. Floyd est avec d'autres personnes dans un véhicule, les policiers sont arrivés. Là, je résume un peu. Il semble qu'il était en état d'ébriété, ou en tout cas faculté affaiblie, et qu'on l'a amené vers l'autopatrouille de la police. Et qu'on aurait eu la difficulté à le faire entrer. C'est pas qu'il y a eu une résistance, mais peut-être le fait qu'il était en état d'ébriété, c'était difficile, et il s'est retrouvé au sol. Et c'est à ce moment-là, alors que les autres policiers étaient prêts aussi, là, ils étaient trois à un moment donné, sur lui. L'autopsie, de ce qu'on en sait, a permis de démontrer que M. Floyd avait des problèmes cardiaques, qui étaient, semble-t-il, connus, problèmes coronariens, quand même importants, et que le fait en fait, les problèmes mélangés à l'alcool, c'est sûr que ça prédisposait à avoir des problèmes. Et là, les gens qui disent « Ouais, mais voyez, là, c'est peut-être pas la pression. » Écoutez bien, là, si vous avez un cancer, puis qu'un policier vous met une pression sur le cou, est en train de vous étouffer, là, vous allez mourir de ça et pas du cancer. Alors, c'est exactement ce qui est arrivé. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est que Floyd travaillait aussi comme gardien dans un établissement, comme portier, et que Chauvin a travaillé aussi, travaillé au même établissement, également comme portier, qui se sont croisés à quelques reprises. Alors, on verra. C'est à peu près sûr qu'il y aura d'autres manifestations au cours de la soirée. Pour Montréal, c'est remis à la semaine prochaine. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur Montréal? D'abord, il y avait quand même beaucoup de monde, là. C'est une manifestation imposante. Pour l'essentiel, les gens ont été respectueux, corrects, étaient là pour la cause, exprimaient avec passion leurs convictions. Parce que c'est un meurtre en direct qu'on voit, là, sur ces images-là. Ça ne peut pas prêter à beaucoup d'interprétations. Et on dit même que Chauvin a été placé en détention, sous surveillance, pour des raisons d'idées suicidaires. Qu'est-ce qui va se passer avec les autres policiers qui ont été congédiés, qui vont faire face également à des accusations? Mais donc, dans le cas de Montréal, comme c'est tout le temps pareil, puis on le voit aux États-Unis, Richard, vous décrivez ça il y a deux instants, ça se met à dégénérer dès que le soleil se couche. Et là, vous avez les casseurs. Aux États-Unis, on prétend que les deux groupes, les deux extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche, disons, se partagent la casse pendant les soirées. Et des policiers disaient, par exemple, au Minnesota, que beaucoup de gens venaient de l'extérieur de la ville, que beaucoup de gens, quand on les a arrêtés, là, puis qu'on voyait un peu le profil, ben, il y en a qui étaient bien plus antifa, là, de gauche, et d'autres étaient des suprémacistes blancs qui profitaient également de la cohue. Ce qu'on a eu à Montréal hier, ce sont les casseurs qui, puis j'en ai vu à LCN en direct, qui ont dit carrément, avant là, que ça dégénère de façon importante, ben oui, on s'en vient, on s'en vient tout casser. C'est un peu pour ça qu'on est là. Puis il y en a pour qui, là, c'est une opportunité de faire du vandalisme et du saccage. C'est ça qui est arrivé hier soir, tu sais. Puis on a vu les policiers à vélo se promener, puis bon. Je ne dis pas que la police de Montréal est parfaite, là. Des gens qui ont des attitudes racistes, c'est sûr qu'il y en a. Mais on n'est pas non plus, et ce ne serait pas une raison pour ne pas parler du problème, dans une situation comparable à ce qui se vit dans certaines villes américaines. Je pense qu'il faut pas que ça devienne ça. Puis il faut dénoncer ces gestes. Et il est vrai que beaucoup de Noirs, de jeunes Noirs en particulier, vivent de la discrimination partout, que ce soit au travail, que ce soit dans différents domaines. Mais on n'est pas quand même dans ça. Puis quand je voyais des manifestants hier, notamment une, tu sais, qui s'approche à un pouce écart de la face du policier qui est sur la ligne, là, comprends qu'il sait qu'il est filmé, là, puis que c'est pas le temps de frapper, là, mais tu sais, tu cours après le trouble. C'est toujours ça le principe. Quand tu vas dans une manif, ça s'appelle courir après le trouble. Et beaucoup de gens ont exprimé leur colère hier, avec raison. C'est épouvantable. Tu sais, il y a des cas, tu dis, quel est l'angle de la caméra, t'es pas sûr de ce qui est arrivé. Dans ce cas-là, t'as un gars qui est sous, probablement. Le motif, c'est un faux billet de vin. Puis tu le gardes presque 3 minutes. Tu gardes ton genou sur son cou pour l'étouffer, alors qu'il est probablement déjà mort, ou en tout cas qu'il n'y a pas de réaction. C'est épouvantable. Sérieusement, là, il n'y a pas de mots Puis il n'y a pas de nuance possible. Et on verra pour ce qui est des autres policiers. 6h16 minutes, Marc, un petit coup d'œil. Bon, revenons sur le dossier du virus. D'abord, on a vu ça en fin de semaine. Un nombre quand même élevé de morts s'ajoute. Et je sais qu'il y a une espèce de débat là, sur le nombre de morts. Est-ce que le Québec compte mieux ses morts qu'ailleurs? Écoutez, je pense que historiquement, le Québec a toujours démontré une plus grande crédibilité quand vient le moment de pondre des bilans. Il y a des pays où on ne compte pas les morts dans des centres de soins pour personnes âgées. On découvre 700-800 morts. T'sais, c'est sûr qu'hier, quand on arrive, on nous dit, écoutez, on a refait les calculs, il y en a 30 quelques nouveaux décès aujourd'hui, puis on en ajoute 200 qui n'avaient pas été comptabilisés avant. Tu fais le saut. T'sais, tu te dis, comprends qu'ils fonctionnent avec des fax, là. Mais il me semble que c'est quand même particulier de voir qu'on n'a pas disons, un décompte plus serré de ça. Mais ce qu'on remarque quand même, c'est pas une grande amélioration, c'est comme une situation qui est plutôt stable au niveau des hospitalisations, au niveau des soins intensifs. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième, ce matin, c'est la réouverture de certaines activités. Salon de coiffure, par exemple, à l'extérieur du Grand Montréal. Parce que pour ce qui est du Grand Montréal, on le sait, c'est reporté au 15 juin. Mais, par exemple, pour les dentistes, les physios, les optométristes, l'acupuncture, le toilettage des animaux, bon, les services personnels, ça recommence aujourd'hui partout. Et ça, ça inclut Montréal. Pour Montréal également, c'est la réouverture des services de garde. Il y a également les centres commerciaux, mais pas à Montréal, qui vont être ouverts. Il y a aussi les campings pour voirie, ZEC et la CEPAC qui vont accueillir les visiteurs aujourd'hui, sauf dans le Grand Montréal. Et il y a cette consigne là, concernant les déplacements. Si vous allez à l'extérieur, dans certains endroits, c'est une journée qui est permise seulement. Dans d'autres, si vous passez un certain temps, ben, vous devez venir de la même adresse. Et on vous demande de pas vous promener trop en région puis de faire vos courses avant. Avec l'idée de pas, de garder le niveau de contamination le plus bas possible. Ah, fait une série d'événements qui s'ajoutent comme ça. Puis quand on regarde ce qui s'est passé dans les écoles à l'extérieur de Montréal, ça va relativement bien. Dans les CPE aussi, il n'y a pas eu d'éclosion. Il y a peut-être un cas ou deux là, où on a dû fermer pendant un certain temps, je pense, dans une école, mais le portrait est assez positif. Alors, la question fondamentale demeure, est-ce qu'on va être rigoureux, respecter le 2 mètres, porter le masque quand on est dans le transport ou encore quand on est dans des établissements commerciaux. On sait que c'est pas obligatoire, mais que c'est fortement recommandé. Et je voyais donc des images d'un peu partout dans le monde où on procède à ces activités de déconfinement puis une certaine reprise économique. Puis bon, dans des pays où c'est plus avancé que nous, on commence à rouvrir les restaurants. Mais la vie sera pas la même. C'est-à-dire que si vous allez au cinéma, en Asie, là, on commence à le permettre, puis en France, on va le permettre aussi, vous rentrez là, puis vous avez un masque, puis il y a moins de gens qui entrent dans la salle. Il y a cette distance qui est gardée, vous devez vous laver les mains. Et dans les restaurants, ça va être un peu la même chose. On prévoit, je regarde en France, l'aménagement, bon, les terrasses, c'est sûr, là, mais peut-être 50 % de la capacité. Puis on va vous demander de vous laver les mains quand vous entrez, quand vous quittez. On va vous demander aussi de porter un masque dans vos déplacements à l'intérieur du restaurant. Ça va être une période quand même d'ajustement important. Et aussi, quand on, si on peut en ajouter ce matin, c'est un dossier qui est à Radio-Canada, sur des migrants. On n'est pas surpris, là, mais disons qu'ils ont eu des confirmations. Des migrants mal formés qui ont été envoyés en pleine crise dans les CHSLD. Donc, des travailleurs qui n'avaient pas vraiment de statut, qui ont été recrutés par des agences de placement qui manquaient de monde. Ils n'avaient pas la compétence. Dans bien des cas, ils ne parlaient pas la langue. Et on les a quand même envoyés dans le feu. Parce qu'on avait du personnel qui désertait, du personnel qui était malade, on était en manque. Et que donc, on n'a pas eu le choix. Et même les gens des CIUS, des CIS surtout, reconnaissent que on s'est retrouvé dans une crise et que dans les circonstances, il y a eu un laisser-aller, puis on l'a fait, puis on n'avait pas le choix. Sinon, les gens étaient à découvert. Et là, c'est toute l'histoire d'horreur qu'on a entendue pendant la crise de gens qui ont été déshydratés, qui ont été laissés souiller pendant des heures et des heures. Et ben, il y a des agences qui ont dit, ben, on prend n'importe qui veut faire ça? Des gens là, qu'on lançait dans un centre de soins de longue durée, faisaient même pas le tour de la bâtisse, puis go, travail. Puis là, des gens qui faisaient plusieurs établissements, qui est un des éléments clés de cette pandémie aussi. Là. Va-t'en au premier, change de résidence, reviens dans deux jours, puis qu'on pouvait comme ça faire circuler. Aussi, dans la presse ce matin, un article sur l'épuisement des patients, des parents qui ont des enfants handicapés. J'en ai souvent parlé. Je sais qu'on va proposer des formules, je dirais, de répit pour les parents, par même temps de stimulation pour les jeunes handicapés. Mais il y a beaucoup de parents qui ont besoin d'aide à domicile. Là. Tu sais, quand tu combines le télétravail ou la perte d'emploi là, avec des enfants handicapés qui ont perdu le support, c'est extrêmement difficile. Il y a des parents là, qui accomplissent des miracles. Puis, tu sais, t'as un enfant qui est handicapé, l'autre l'est pas, l'école recommence, il y a une pression qui est exercée qui n'était pas là avant. Il y a vraiment des parents là qui sont pressurisés. Et l'été qui s'en vient, les ouvertures de cœur, les piscines, oui, 20 juin à Montréal, les modules de jeu, ben ça reste à préciser dans chacune des municipalités, là, parce qu'il y a des protocoles également à respecter. Et aussi, vous lirez rapidement là ce dossier dans la presse sur le Québec qui fait ses achats ici ou à l'étranger. Et c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que, tu sais, on a le panier bleu, puis on nous explique qu'il faut s'encourager localement, puis, tu sais, donnons. Puis là, tu t'aperçois qu'il y a des entreprises, pour une scène ou deux, là, qui n'ont pas des contrats. Puis c'est pas clair qu'est-ce qui est québécois, qu'est-ce qui n'est pas un produit d'ici. Mais moi, ça m'arrive souvent de recevoir des courriels d'entrepreneurs, j'en ai eu pendant la crise, qui disent si Québec laissait tomber tout le temps ou ne comptait pas que sur le critère du prix le plus bas, ben ça pourrait aider des entreprises d'ici à créer de l'emploi. Puis on comprend qu'on ne pourra pas tout fournir puis devenir autosuffisant au Québec. Mais il y a moyen, probablement, d'aider puis d'avoir des produits de qualité puis peut-être aussi une qualité de service plutôt que de se tourner vers des géants. C'est, on donne l'exemple de Cossette, qui est une firme historiquement québécoise, mais qui a été vendue à des Chinois puis revendue à des Américains, alors qui ramassent les contrats du gouvernement. Ça fait le tour, puis on parlera de la baleine aussi, qui est venue faire un tour en fin de semaine, tout près du pont Jacques-Cartier, dans les eaux du Saint-Laurent. As-tu trouvé que c'était un peu frais quand même en fin de semaine? Il est 6h24. On va aller voir ce qui se passe sur la 40.